Divergence FM, l'interview.
Madame Louichon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc professeur de langue et littérature française à la faculté d'éducation de l'Université de Montpellier. Ouais. Et dans le cadre des jeudis de l'UM, vous allez donner une conférence sur l'enseignement de la littérature à l'école primaire, mais avec un titre qui m'a paru un petit peu énigmatique. Mais pourquoi donc enseigner la littérature à l'école primaire ? Pouvez-vous nous éclairer sur ce titre ?
Alors, on pourrait l'éclairer de deux manières. La première serait de dire qu'elle serait énigmatique dans la mesure où la littérature aurait toujours été enseignée à l'école primaire.
Oui.
Or, dans les faits, c'est pas tout à fait vrai, puisque la littérature a toujours été présente à l'école primaire, mais elle a été présente comme une sorte de support, c'est-à-dire avec la littérature, on faisait autre chose. Et on continue d'ailleurs à l'école à faire autre chose avec la littérature. Par exemple, vous pouvez faire des dictées, vous pouvez faire des exercices, vous pouvez faire de la grammaire, vous pouvez apprendre l'histoire en faisant, travaillant sur un roman historique, vous pouvez apprendre les sciences en travaillant avec un album sur la germination, etc. Donc la question, c'est non pas la littérature comme support, mais la littérature comme objet. Et ça, c'est plus récent dans les programmes, puisqu'on peut dater l'introduction de la littérature comme un objet spécifique qui a ses propres finalités. C'est de ça dont je voudrais parler, des années 2002. Donc voilà, ça c'est la première manière de voir les choses. La deuxième, ce serait de se dire, mais bon sang, à l'ère du numérique, à l'ère du multimédia, alors que les enfants ont tellement de choses à apprendre, qu'il faut qu'ils apprennent à lire, à écrire, à compter, qu'ils développent des compétences, qu'ils travaillent sur l'environnement, qu'ils travaillent sur les sciences, etc., etc. Est-ce que la littérature, c'est quand même bien nécessaire ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses plus actuelles, plus pertinentes au regard de l'éducation de manière générale ? Voilà un petit peu le sens de la question que je voulais poser.
Alors, mon grand âge fait que j'ai le souvenir d'une école primaire où on apprenait encore des poèmes par cœur et où on lisait un certain nombre de textes, alors certes pour leur contenu, mais on entrait de plein pied quand même dans l'univers de nombreux personnages célèbres de la littérature française. Est-ce que ceci a changé ?
Oui et non. Parce que je ne sais pas quel âge vous avez, mais il existe depuis, en tout cas massivement, depuis une vingtaine, trentaine d'années, une littérature spécifiquement adressée aux enfants, qu'on appelle la littérature jeunesse, qui est un monde littéraire d'une extrême richesse, d'une extrême inventivité et qui entre massivement dans les classes. Et ça, c'est une chose extrêmement positive. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes objets. Et en même temps, si on regarde les programmes de l'école primaire, par exemple, il est spécifié que, par exemple, au CM2, les élèves doivent lire 4 œuvres de littérature jeunesse contemporaine et 3 œuvres classiques. Donc, rassurez-vous, La Fontaine, Les Contes de Perrault, toutes sortes de choses, on va les retrouver à l'école. Et c'est aussi de ces questions-là dont j'aimerais parler, c'est-à-dire de, non seulement de la littérature jeunesse, non seulement des enjeux de la littérature, mais de ce que les textes, justement, qui régissent les programmes, appellent la culture patrimoniale, c'est-à-dire cette culture que nous partageons, que nous transmettons, qui est le bien commun, hein, le patrimoine, le pater, et puis après la patrie. Et comment est-ce qu'on peut envisager cette transmission ? Comment ces textes-là peuvent parler aux enfants aujourd'hui ? Puisque il ne s'agit pas d'imposer la littérature, on a un petit peu de mal à l'imposer. On peut apprendre par cœur des règles de grammaire, c'est très difficile d'apprendre par cœur le sens d'une œuvre et la manière dont on peut se l'approprier. Donc, c'est une question fondamentale de pourquoi on fait ça et comment on le fait, évidemment.
Est-ce que vous avez le sentiment que, justement, ce côté patrimonial de la littérature ou des arts en général a eu tendance à se réduire ou à se perdre, peut-être ?
Alors, je pense que ce qui est important, et c'est une des choses que j'essaierai d'exposer dans la conférence et de montrer, c'est de réfléchir un petit peu sur qu'est-ce que c'est qu'une culture patrimoniale, justement. Or, mon approche, beaucoup de mes travaux ont porté là-dessus, c'est de dire le patrimoine, l'œuvre patrimoniale, littéraire, pour ce qui nous intéresse, c'est une œuvre évidemment passée, d'une production passée, d'une œuvre qui a été écrite il y a 100, 200, 300 ans, mais elle n'est patrimoniale que parce qu'elle est présente aujourd'hui. C'est-à-dire que si elle n'est plus présente, elle est oubliée. Si elle est oubliée, elle n'est plus patrimoniale. Donc ce qui est important, c'est de réfléchir à ce qu'est cette œuvre aujourd'hui. Quelles sont les formes et les modes de sa présence? Si vous prenez les contes de Perrault, par exemple, qui est vraiment l'exemple le plus évident pour la littérature adressée aux enfants, eh bien, si vous prenez Le Petit Chaperon Rouge, Blanche-Neige ou n'importe quel des quelques contes de Perrault, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, vous vous rendrez compte qu'ils sont présents dans les mémoires des familles, des enfants, mais peut-être pas à partir du conte de Perrault, mais peut-être plus probablement à partir du conte de Disney, qu'ils sont présents sous forme d'albums, c'est-à-dire de textes illustrés, d'images, et que Le Petit Chaperon Rouge est représenté de mille manières différentes, c'est-à-dire en réalité qu'il est lu de mille manières différentes, et c'est ce qui m'intéresse vraiment, et le travail que je mène avec les classes, c'est de considérer l'œuvre patrimoniale comme une œuvre dont la réception est contemporaine et qui donne à voir et à lire des choses extrêmement contemporaines dans des langages extrêmement contemporains, puisqu'on va pouvoir travailler sur des films, sur des dessins animés, sur des BD, sur des théâtralisations, avec évidemment un va-et-vient, avec aussi le texte et le langage littéraire du XVIIe ou du XVIIIe siècle, suivant les auteurs dont on parle.
Est-ce à dire qu'il y aurait des formes un peu archétypales qui se reproduiraient, quelles qu'en soient les formes et l'actualisation que l'on peut en lire?
Je ne comprends pas très très bien votre question. La forme archétypale de quoi?
Mais de, je sais pas, vous, le petit chaperon rouge, par exemple, serait quelque chose que l'on pourrait, au fil de l'histoire, retrouver à travers des formes différentes.
Absolument, absolument. C'est vraiment, alors bon, le petit chaperon rouge, c'est un exemple un petit peu paradigmatique, mais bon, on sait qu'il a des origines très très variées, etc. Mais même si on parle simplement de Perrault, qu'il l'a fixé en quelque sorte dans cette magnifique langue littéraire, chacune des époques, chacun des lecteurs va l'actualiser et va en faire quelque chose. Il y a mille interprétations de ce texte très court, parce que c'est Le Petit Chaperon Rouge, c'est deux pages, et on peut le comprendre, on peut l'interpréter, on peut se l'approprier, on peut en faire des choses extrêmement différentes, extrêmement riches. Et ce qui est intéressant, c'est de les mettre en dialogue et, par cette mise en dialogue, de montrer aux élèves que le texte, c'est ce qu'on en fait. Lire, c'est faire quelque chose avec un texte qui est un... Et on peut faire des millions de choses avec des textes. Et il ne s'agit pas de dire qu'on va évidemment lire n'importe quoi et comprendre n'importe comment. Il y a un minimum sur lequel on est obligé de se mettre d'accord. Mais après, Petit Chaperon Rouge, ça peut être une petite fille tout à fait malicieuse ou la victime d'un viol. Enfin, vous pouvez mettre beaucoup de choses derrière Le Petit Chaperon Rouge. Et alors, on ne va peut-être pas parler de viol avec des enfants à l'école primaire, mais c'est un exemple de cette formidable productivité de ces œuvres littéraires et qui nous amène à, en tout cas qui m'amène à envisager une didactique de la littérature, c'est-à-dire une réflexion sur l'enseignement de la littérature, qui tienne compte de cette productivité et qui ne se contente pas simplement de donner le texte original et de dire à des enfants d'aujourd'hui, ben vous voyez, ça c'est très très bien. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait fonctionner.
Eh bien voilà une conférence qui s'annonce très riche et très très extrêmement stimulante pour l'esprit, me semble-t-il. Merci beaucoup.
Ben, je vous en prie.
Voilà. Oh, je pense qu'on a, on a bien fait surgir le, ce que vous allez proposer dans la conférence.
Oui, oui.
Voilà. Ouais, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup.